Les terrasses du ciel. Les grands classiques de la poésie chinoise avec les éditions Mundaren. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose tout au long de cet été de découvrir la poésie chinoise classique grâce au livre publié par les éditions Mundaren sur quelques grands poètes. Je souhaite commencer cette émission par Han Shan et le livre publié par les éditions Mundaren, Merveilleux le chemin de Han Shan. Vers la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, près de Gaïa en Inde, Shakyamuni, après plusieurs années de quête spirituelle intense mais vaine, est assis sous un figuier baignant depuis la tombée de la nuit, en contemplation. C'est maintenant la fin de la nuit. Face à l'étoile du matin qui jette ses derniers feux, il s'éveille à l'identité de sa nature profonde et de l'univers. Il est désormais le Bouddha, c'est-à-dire l'éveillé. Quelque temps plus tard, sur le mont du Vautour sacré, le Bouddha prêche devant une assemblée de disciples. Aujourd'hui, il n'a pas recours à un long discours. Il lève simplement une fleur qu'un disciple lui a offerte. Pas la moindre parole. Personne ne comprend, sauf le vénérable Mahakasyapa, qui vient à son tour de s'éveiller à sa nature profonde. Un large sourire illumine son visage. Le message du Bouddha est limpide. Chacun d'entre nous peut s'éveiller à sa nature propre, originelle. Elle est là, enfouie sous la confusion des soucis quotidiens et des désirs incessants. Étranglé par la fabrication permanente d'actes, verrouillé par les catégories du langage et de la pensée, obscurci par l'image de soi, ô combien rétréci et appauvri, à laquelle on finit par s'identifier, image figée par les habitudes, incapable d'émerveillement. Contempler la fleur. Chacun de nous est une ouverture par laquelle l'univers se contemple. Par la suite, le Bouddha prêchera aussi la parole. Les mots peuvent indiquer le chemin, à condition de ne pas les prendre pour le chemin lui-même. Ces sermons seront retranscrits, deviendront un objet de savoir, de dispute, naîtront différents courants. L'habituelle entropie du discours. Demeure pourtant le message, fulgurant. La vérité, inutile de la chercher à l'extérieur. Elle réside dans notre cœur, et notre cœur, c'est l'univers. Quand on ne pense plus ni au bien ni au mal, apparaît notre véritable visage, vénérable. 1000 années plus tard, en l'an 520, un sage indien, Bodhidharma, par bateau arrive en Chine où il vient transmettre l'expérience qui est au cœur de l'enseignement du Bouddha que Mahakasyapa avait été le premier à recevoir. Bodhidharma formule le principe de cet enseignement en ces termes. Hors l'enseignement direct, nulle transmission. N'établir aucun écrit, pointer directement le cœur de l'homme, qu'il voit sa nature et devienne un Bouddha. Un siècle après, Wei Neng, né dans le sud de la Chine, près de Canton, hérite du message transmis par Bodhidharma et prêche l'éveil immédiat à notre nature originelle, donnant son expression originale au bouddhisme Chan, Zen dans la traduction japonaise ultérieure, subtile infusion de l'enseignement du Bouddha dans la pensée taoïste purement chinoise, de Lao Tzu, contemporain de Sakyamuni et de Chuang Tzu, du IVe siècle avant Jésus-Christ. Lao Tzu et Chuang Tzu, en leur temps, avaient chanté les vertus de l'activité libre, spontanée, de l'accord au cours des choses. Le mot Chan est la transcription chinoise du sanskrit dhyana, contemplation. Wineng, dans le Sutra de l'Estrade, qui rassemble ses sermons, explique « Vénérable auditoire, dans cet enseignement, qu'entend-on par « être assis en méditation » ?»« Dans cet enseignement, être assis signifie rester détaché en toutes circonstances, sans que naisse la moindre pensée. En méditation signifie reconnaître sans la moindre confusion, notre nature originelle. » Plus loin, dans le sutra, il précise « Vénérable auditoire, le vide contient le soleil, la lune, les étoiles, les planètes, la grande terre avec ses montagnes, ses fleuves, toutes ces plantes et ces arbres, les hommes bons et les hommes mauvais, les bonnes choses et les mauvaises choses, le paradis et l'enfer, tous sont dans le vide au cœur de la nature de l'homme participe du même vide. » Wineng meurt en l'an 713. La Chine est alors à l'aube de l'époque où elle va connaître une extraordinaire effervescence culturelle. Vivent durant ce siècle les poètes Lipo, Tufu, Wang Wei, Pokuyi et les grandes figures du bouddhisme Chan, outre Wineng, Nan Yue, Matsu, puis Wangpo et Linzi. Le Chan est alors à son apogée, exerçant son influence tant envers les moines qui parcourent la Chine de monastère en monastère qu'envers les poètes, peintres et disciples laïcs qui parfois s'éloignent un temps du monde de poussière et se retirent dans un temple des montagnes. Certains y restent ou deviennent ermites. Dans la plus pure tradition chinoise des ermites excentriques, insouciants, et illuminé. L'un d'entre eux, le plus connu peut-être, Han Shan. Il vit donc en Chine à cette grande époque. Il commence par mener une vie familiale paisible. De père et mère un bon héritage, nul besoin d'envier les champs et les vergers des voisins. Ma femme tisse, tsatsa, mon jeune enfant babille, juju, battant des mains, j'invite les fleurs à danser, menton dans les paumes, j'écoute les oiseaux chanter, qui viendrait me blâmer ou me féliciter? De temps à autre passe un bûcheron. Cette vie familiale sera courte. Dans un poème, il confie « Jeune, lorsque je binais la terre, j'emportais les classiques. Je dus quitter la maison de mon frère aîné à cause de racontars. Même ma femme s'éloigna de moi. Je renonçais à ce monde de poussière rouge. Je voyage alors beaucoup et m'adonne à la lecture. Qui me prêtera une mesure d'eau pour faire vivre le poisson dans l'ornière ?
Thank you.
vient le moment où Al-Shan se retire au pays de Yuwei, dans la région où exercent les deux grands maîtres de l'école Chan du Sud, Matsu, au regard de tigre et à la démarche de buffle, et Nan Yue, le paresseux. Anshan finit par s'installer sur une montagne du Tiantai appelée Anshan, la montagne froide, d'où son nom. Quand l'homme devient montagne, on est en présence, étymologiquement parlant, d'un immortel. Le Tiantai, la terrasse du ciel, est une chaîne de montagnes au sud de la baie de Hangzhou, à la pointe est de la Chine, proche des côtes de la mer de Chine. Sur les versants du Tiantai poussent de nombreux canneliers, superbes et réputés, vénérés comme symboles d'immortalité. Dans ce paysage sauvage sont nichés des monastères bouddhistes et taoïstes, notamment le fameux monastère Kuoxing, paix dans le pays, construit en 598 par le moine Qiyi, fondateur de l'école bouddhiste Tiantai. C'est l'un des foyers les plus réputés de Chine pour l'enseignement bouddhiste. Là réside le maître Feng Kan, qui laisse pousser ses cheveux contrairement aux autres moines au crâne rasé, a pour habitude de se déplacer à dos de tigre en chantant des hymnes et, ceci n'étant pas sans rapport avec cela, répond invariablement à ceux qui lui demandent quel est l'essence de l'enseignement du Bouddha, fondamentalement rien. Feng Kang avait ramené un jour au temple un jeune garçon de 10 ans abandonné par ses parents qu'il avait trouvé en pleurs lors d'une randonnée en montagne. Il avait surnommé le jeune garçon Shitei, le ramassé, et l'avait recueilli au temple Kuoxing, où il l'avait affecté aux cuisines. Anshan et Chite sont devenus par la suite l'un des sujets favoris des peintres de la tradition Chan, la tradition Zen. Anshan avec un rouleau de poèmes et Chite avec un balai, tous deux sauvages et hilares. Le portrait de Anshan, reproduit sur la couverture de l'ouvrage des éditions Mundaren merveilleux Le chemin de Anshan, et celui de Chité au dos du même livre, sont l'œuvre du peintre Yen Hui. De Feng Kan nous est parvenu ce poème. Anshan vient exprès me rendre visite, Chité passe souvent me voir, nous sondons nos cœurs, parlons de la lune immaculée, de l'immensité sans limite, la voix est par nature infinie, par nature elle est universelle. Ce que l'on sait aujourd'hui de Anshan provient des poèmes qu'il a inscrit sur les arbres, les rochers, les murs et de la préface non datée, contrairement à l'habitude chinoise, écrite par celui qui a fait rassembler ses poèmes, un certain haut mandarin, Lu Qiuyin, dont on a aujourd'hui perdu la trace.
Thank you.
Préface au recueil des poèmes de Han Shan par Lu Qiuyin, gouverneur de Taichou. Celui qu'on appelle Han Shan, personne ne sait vraiment qui il est. Quand les gens le voient, tous disent que c'est un pauvre bourg, un cinglé. Il vit retiré à 70 li à l'ouest du district de Tansing, au Tiantai, dans un endroit nommé Anshan, au pied d'une falaise. De là, il se rend souvent au monastère Koxing où vit Shite, qui travaille dans la cuisine et met les restes de côté dans un tube de bambou pour lui. Han Shan déambule dans la galerie du temple, criant de joie, parlant seul, riant seul. Parfois des moines lui courent après pour l'attraper, l'injurier, le frapper. Alors il s'arrête net, frotte ses mains, comme ça, un bon moment, puis s'en va. On dirait un clochard. Le corps et le visage séché, émacié. Pourtant, ses paroles semblent cohérentes, et si on y réfléchit bien, on y devine des idées profondes. En fait, tout ce qu'il dit est profond. Sa coiffe est en écorce de bouleau, ses vêtements sont troués, déchirés, ses sandales en bois sont toutes usées. Ainsi vit l'homme suprême, ne laissant aucune trace derrière lui, confondu à la nature, y répandant sa bienveillance. Dans la galerie du temple, Han Shan chante ces paroles étonnantes, si étonnantes, tourne le triple monde. Dans les villages, près des huttes, il chante et rigole avec les enfants qui gardent les vaches. Que tout aille bien ou mal pour lui, il est toujours content de son sort. Mais si l'on n'est pas soi-même un sage, comment le reconnaître ? Récemment, j'ai été nommé à un petit poste à Taichou dans le district de Tansing. Au moment de partir, souffrant d'une forte migraine, je fais appeler un médecin. Malgré ses soins, la douleur empire. C'est alors qu'un maître Chan, Feng Kan, qui dit arriver du monastère Koxing au Tiantai, vient me rendre visite. Je lui demande de me soigner. Le maître, le visage très détendu, se met à rire et me dit « Les quatre éléments sont en harmonie dans votre corps. La maladie vient de l'illusion. Si vous voulez vous en débarrasser, ce qu'il vous faut, c'est de l'eau pure. » On apporte au maître de l'eau pure, il la boit et la recrache sur moi. Quelques instants après, le mal de tête était parti. Le maître me dit alors, « À Taichou, il y a la mer et les îles, le brouillard est malsain. Une fois là-bas, n'oubliez pas de vous protéger. » Je lui demande, « J'aimerais savoir s'il y a des sages là-bas, afin de suivre leurs enseignements. » Le maître répond, « Quand vous les verrez, vous ne les reconnaîtrez pas, et quand vous les aurez reconnus, vous ne les verrez plus. Si vous voulez les voir, ne vous fiez pas aux apparences. Alors peut-être, peut-être pourrez-vous les voir. Han Shan et Manjushri. » Le disciple du Bouddha incarnant l'intelligence. Han Shan se cache au monastère Koxing. Shite est Samantabhadra, disciple du Bouddha incarnant la compassion. On dirait des clochards, ils ont l'air cinglés. Ils vont et viennent, travaillent dans le grenier à riz du monastère Kuoxing et surveillent le feu dans la cuisine. Ayant fini de parler, le maître se retire. Je prends alors la route et arrive à Taishou pour mon nouveau poste. Je n'ai pas oublié cette affaire. 3 jours après ma prise de fonction, en personne, je me rends dans un temple proche et, avec déférence, interroge un moine. Ces dires correspondent aux paroles du maître. J'ordonne alors qu'on enquête dans le district de Tansing pour savoir si Anshan et Shite s'y trouvent encore. Le chef du district me dit « À 70 lis à l'ouest du district, il y a une falaise. On voit souvent un pauvre bougre sortir de sa grotte pour se rendre au monastère Kuoxing où il passe parfois la nuit. Dans la cuisine du monastère, il y a un moine surnommé Shite. Je décide alors de me rendre spécialement au monastère Kuoxing pour leur rendre hommage. Arrivé là-bas, je demande à des moines « Dans ce temple réside le maître Fengkang. Où est sa cellule ? Il y a aussi Shite et Anshan. Où sont-ils ? » Un moine nommé Tao Kiao répond « La cellule de maître Fengkang est derrière la bibliothèque des sutras. Il n'y a personne en ce moment. » Parfois un tigre y entre et rugit. Anshan et Shite sont dans la cuisine. Le moine me conduit alors dans la cellule du maître Fengkang. Il ouvre la porte. Par terre, on voit les empreintes d'un tigre. Je demande aux moines Tao Kiao et Pao Te, quand maître Fengkang est là, que fait-il ? Ils répondent, eh bien la journée, Fengkang décortique le riz avec un pilon, et la nuit, il chante des hymnes pour se distraire. Je me rends ensuite dans la cuisine. Devant le fourneau, 2 individus, face au feu, rient aux éclats. Je les salue respectueusement. D'un cri, ils m'arrêtent, joignent leurs mains et éclatent à nouveau de rire en s'exclamant « Fengkang, langue décousue, langue décousue, oh, vous ne reconnaîtriez même pas le Bouddha de la terre pure de l'Ouest. Alors, pourquoi nous saluer ?» Des moines arrivent en courant, sidérés qu'un haut mandarin puisse saluer de la sorte ces 2 pauvres bougres. Les 2 en profitent pour s'enfuir en se tenant par la main. J'ordonne qu'on les poursuive, mais ils ont déjà disparu, retournant sur la montagne froide. Je demande alors aux moines s'ils pensent que ces 2 individus accepteraient de s'installer au monastère, puis ordonne qu'on prépare pour eux 2 cellules et qu'on aille leur proposer de loger au monastère. De retour dans le district, je fais fabriquer 2 ensembles de vêtements et de l'encens qu'avec diligence je fais envoyer au monastère. Les 2 n'étant toujours pas revenus, j'ordonne qu'on porte ces présents au pied de la falaise. En voyant arriver les messagers, Anshan crie « Au voleur, au voleur !» et recule vers la grotte en s'exclamant « Je vous le dis à tous, pratiquez avec zèle !» Puis il s'enfonce dans la grotte. La grotte se referme, impossible de le suivre. Quant à Shite, ses traces ont disparu. J'enjoins alors au moine Tao Kiao d'enquêter sur leurs faits et gestes. C'est sur des bambous, des arbres, des rochers et les murs des villageois que Anshan a inscrit ses poèmes, un peu plus de 300. Shite a écrit les siens sur les murs du monastère. Ils ont été collectés. Les voilà rassemblés en un livre. et Lu Kuyin de conclure « Que mon cœur prenne refuge dans le Bouddha. Par chance, j'ai rencontré des hommes du Tao. » Liu Kuyin, grand officier de la cour, gouverneur militaire de Taisho, pilier supérieur de l'Empire, porteur de l'insigne du poisson dans un étui rouge, don de l'empereur. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de la lecture de ce livre publié aux éditions Mundaren, Merveilleux, le chemin de Anshan. La semaine prochaine, nous entrerons de plein pied dans le royaume et la poésie de Anshan, montagne froide. À très bientôt. Thank you.